Dialogue entre Congolais à présent avec Alain Héroux à la présentation.
Bonsoir, un seul thème dans l'émission de ce soir, bilan à mi-parcours des opérations de révision du fichier électoral. Quelle évaluation peut-on faire près d'un mois après le lancement de ces opérations dans la ville de Kinshasa? Quels sont les défis à relever pour le succès de ces opérations? Nos invités sont Dieudonné Mirimo, rapporteur général de la Commission électorale indépendante CEI, il est en ligne. Ali Rissassi, secrétaire national à l'information et presse et porte-parole de l'UDPS, il est avec nous dans ce studio. Professeur Isidore Ndayuel, historien et professeur des universités, il est aussi en ligne. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Bilan à mi-parcours des opérations de révision du fichier électoral, moins de participation de nouveaux majeurs et aucune déclaration des personnes décédées n'a été faite depuis le début des opérations de révision du fichier électoral, c'est le constat de certains partenaires électoraux. Comment se déroulent ces opérations? Les détails avec Guy Maté.
Jusque le week-end dernier, selon la CEI, 196 000 cartes d'électeurs ont été délivrées. Cependant, la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'UNELIT en sigle, déplore certaines failles dans le déroulement de ces opérations, notamment la lenteur des machines, le manque de rapidité de la part des opérateurs de CSI. Conséquence, environ 10 personnes seulement étaient enregistrées dans chaque centre par jour. Il n'y avait pas non plus d'engouement de la part de la population. Cela s'expliquerait, selon la UNELIT, par les comportements des partis politiques. Ces derniers n'ont toujours pas commencer la sensibilisation de leurs électeurs. Pour sa part, la commission épiscopale Justice et Paix de l'Église catholique affirme avoir constaté hier mercredi dans deux centres de la commune de Bandalungwa un nombre impressionnant de gens. Plus ou moins 100 personnes étaient enregistrées par jour dans chaque centre visité. Cependant, la CENCO fait le même constat au sujet des partis politiques. Elle les exhorte à sensibiliser le peuple sur les enjeux de ces opérations afin de lui permettre de se faire enrôler. Dans le reste des temps, des mois, la CEI pourra-t-elle atteindre les chiffres d'environ 3 millions de personnes attendues pour la seule ville de Kinshasa? C'est la question qu'on peut se poser.
Dieudonné Mirimo, bonsoir. Nous venons de perdre Dieudonné Mirimo, le temps que la réalisation nous aide à le retrouver. Nous avons dans ce studio Bernard Alirissassi. Bonsoir Bernard.
Bonsoir Alirissassi.
Vous êtes secrétaire national à l'information et presse et porte-parole de l'UDPS. Nous savons qu'en 2005, l'UDPS avait demandé à ses militants de ne pas s'enrôler. Cette position a-t-elle évolué aujourd'hui?
Oui, cette position a évolué dans la mesure où aujourd'hui, nous avons demandé à l'ensemble des membres du parti et des combattants de l'UDPS de pouvoir s'enrôler, de prendre part à l'enrôlement, étant donné que les années antérieures, nous n'avons pas pris part au processus électoral. Qu'à cela ne tienne, les conditions que nous avons eu à poser à ce temps-là sont des conditions qui restent maintenues pour nous, l'UDPS.
Lesquelles, par exemple?
C'est-à-dire le recensement et l'identification des nationaux. Vous êtes censé savoir, monsieur le journaliste, que notre pays, depuis un certain temps, c'est à cause de ça, bien entendu, que nous avons refusé de prendre part au processus électoral, est devenu, excusez-moi, permettez-moi le terme, une passoire. À l'est du pays, et il n'y a pas longtemps ici au Bas-Congo, des incursions intempestives dans la province orientale, dans le nord, dans le sud Kivu, dans le Bas-Congo, des armées étrangères entrent et ressortent quand ils veulent. Vous comprenez que nous ne pouvons pas nous permettre, nous, UDPS, à donner comme ça, d'une manière gratuite, la nationalité à toutes les personnes qui entrent et ressortent. C'est ainsi que nous disons que nos conditions restent maintenues, mais elles sont maintenues, nous visons aussi, tout en restant maintenues, nous allons évoluer pas à pas.
Mais vous pensez que c'est, vous posez des conditions, vous décidez de vous enrôler. Qu'est-ce qui a changé concrètement?
Ce qui a changé, c'est ceci. Nous avons reçu le message du peuple congolais. Le peuple congolais a été sincèrement déçu de ne pas avoir vu l'UDPS prendre part au processus électoral. L'UDPS, étant visionnaire, avait averti le peuple congolais que les élections que nous voulons dans ce pays doivent être des élections qui puissent apporter une paix durable et un bonheur au peuple congolais. C'est pourquoi nous étions insoumis. Aujourd'hui, le peuple congolais a compris le message de l'UDPS. ce message qui était des élections pour les Congolais, par les Congolais, de manière à ce que le Congo soit un pays uni, fort et solide. Étant donné que ce peuple a souhaité ardemment que cette fois-ci, l'UDP s'implique dans ce processus, nous lançons aussi ce défi au peuple congolais, de manière à ce que, cette fois-ci, leur victoire ne peut pas leur être arrachée comme on nous a arraché cette victoire la fois passée.
Merci. Professeur Isidore Ndaïuel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et professeur des universités. L'UDPS accepte aujourd'hui de participer à la révision du fichier électoral. Cela, d'après vous, constitue-t-il un tournant décisif dans le paysage politique congolais?
Ben, écoutez, c'est une très très bonne chose que l'UDPS s'implique dans le processus électoral. C'est quelque chose souhaité, souhaitable depuis le début du processus. Donc, je pense qu'il faudrait, à partir de là, bien sûr, se rendre compte que c'est un tournant. Je veux dire, c'est une avancée dans l'exercice de notre démocratie. D'autant que nous sommes là à un scrutin extrêmement important, puisqu'il s'agit des communales, et c'est vraiment la démocratie, je dirais, à la porte de la maison. C'est l'exercice, c'est la démocratie à taille humaine. Et ce serait intéressant que tout le monde puisse effectivement s'impliquer, parce que au moins à ce niveau, la population a la possibilité de contrôler directement les élus. C'est à partir de cet exercice qu'ils pourront mieux contrôler les autres échelons, les députés et plus haut le chef de l'État. Et je crois que c'est l'exercice qui aurait dû même précéder les autres scrutins. Mais comme nous avons eu la situation qu'on a eue, ça n'intervient que maintenant. Je suis très heureux que cela puisse se faire et qu'il y ait cette implication.
Dieudonné Mirimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rapporteur général de la Commission électorale indépendante CEI. La CEI s'attendait à enregistrer 3 millions de personnes pendant ces opérations. Jusqu'à la semaine dernière, il n'y a que, si on peut arrondir, près de 200 000 personnes. Pour atteindre vos prévisions, il faut, d'après des petits calculs, 15 mois. Est-ce à mi-parcours, à un mois de la clôture de ces opérations, peut-on parler d'un échec?
Nous ne pouvons pas parler d'un échec. Comme vous savez, nous avons commencé l'opération à Kinshasa le 7 juin 2009 et nous avons ouvert 143 centres d'inscription. Au cours de la première semaine, nous avons enregistré quelques problèmes d'ordre technique liés au démarrage de l'opération.
Lesquels?
C'est notamment sur les imprimantes et sur les groupes électrogènes. Mais rapidement, nous sommes intervenus et remplacés systématiquement les imprimantes dans tous les centres ainsi que les groupes électrogènes. Et la situation ça s'améliorait au fur et à mesure. Donc nos prévisions pour la ville de Kinshasa, c'est 2,074,738 électeurs attendus.
Mais
la situation jusqu'à hier, c'est de 227,190 électeurs.
Et pensez-vous atteindre ce chiffre de 2 millions dans les 3 semaines qui nous restent là?
Nous ne pouvons pas être pessimistes, nous espérons que nous pourrons atteindre nos prévisions, mais seulement nous devons dire qu'il y a énormément de problèmes sur le terrain. J'ai suivi mon compatriote de l'UDPS qui a parlé de l'enterre des machines et des OPS, mais c'est plutôt le problème avec les nouveaux électeurs quand ils se présentent dans les centres. Pour la plupart, ils ne connaissent même pas leur groupement d'origine et ils mettent beaucoup de temps devant la machine lorsque l'opérateur doit dérouler les groupements ou les secteurs de son territoire pour qu'il puisse retrouver ou même pas le groupement de son groupement d'origine. C'est ce qui fait que les gens passent parfois entre 10, 15, voire même 20 minutes devant pour pouvoir obtenir la carte d'électeur dans les centres d'instruction.
Mais d'après certaines personnes qui sont allées pour ces opérations, il n'y a pas que le problème avec les nouveaux électeurs. Il y a quand même une certaine lenteur, un manque de maîtrise visible de la part de vos agents de la CEI, par exemple.
Oui, je vous ai dit, c'est des cas concrets. On peut avoir des cas isolés, des problèmes des agents, mais à chaque fois que cela est signalé, nous avons formé des réservistes qui peuvent venir remplacer ceux qui sont défaillants dans les opérations. Mais c'est des cas que nous constatons sur le terrain. Lorsque le candidat électeur se présente, il termine la première étape de l'identification par le préposé. Et quand il se présente devant l'OPS, à ce moment-là, il est en train de tergiverser pour savoir exactement de quel territoire ou surtout de quel groupement il est originaire, et ça prend énormément de temps.
Mais il y a également aussi des problèmes tels que le respect des heures d'ouverture, de fermeture, ça commence en retard, et il y a même également ce problème de monnayage dont parlent plusieurs personnes. Expliquez un peu ça.
Les centres sont ouverts du mardi au dimanche de 7h à 17h. Sur le lundi, c'est les jours réservés au dossier administratif du centre d'inscription. Donc le centre est fermé chaque lundi de la semaine. À ce qui concerne le monnayage, pendant la première semaine quand nous avons démarré, nous orientions les candidats électeurs qui ont perdu leur carte vers les OPJ de la police pour obtenir les attestations de perte de pièces. Et nous avons enregistré plusieurs plaintes qui ont exigé des fois 2 000, voire même 4 000 francs pour obtenir l'attestation de perte de pièces. Et nous avons donc saisi les autorités compétentes, et l'hôtel des villes qui a été informé de la situation s'est réuni le 12 juin dernier et a pris la décision que désormais c'est au niveau de la commune, donc auprès du bourgmestre qui a aussi la qualité d'OPJ, qu'on devra obtenir l'attestation de perte de pièces. Et l'hôtel des villes a fixé ça à 1 000 francs congolais, uniquement pour les personnes qui ont perdu leur carte et qui doivent donc obtenir le procès verbal, qui doivent présenter au centre d'inscription pour obtenir la carte d'électeur. Par contre, tous les autres candidats électeurs obtiennent leur carte gratuitement.
Bernard Ali Rissassi, vous êtes porte-parole de l'UDPS. D'après certains observateurs, il est constaté un certain désintéressement. Est-ce que vous, au niveau de vous en tant que parti politique, est-ce que vous sensibilisez? Quel travail vous faites au niveau de vos membres pour les amener à participer massivement à ces opérations?
Nous leur parlons, nous leur donnons, nous avons donné un mot d'ordre. En ce qui nous concerne, le mot d'ordre a été donné à nos combattants de pouvoir s'enrôler. Lorsque vous parlez d'un manque d'engouement, en fait, c'est général. Comment voulez-vous que, après qu'il y ait des élections soi-disant libres, transparentes et démocratiques dans notre pays, le citoyen congolais constate que sa vie quotidienne n'a fait que s'empirer du matin au soir? Vous vous souviendrez que, parmi les 5 chantiers du président de la République, la paix faisait partie d'un des sentiers. Mais aujourd'hui, à l'est de notre pays, il n'y a pas de paix. La paix, ce n'est pas seulement les armes. C'est aussi l'emploi. C'est aussi le niveau de vie. C'est aussi l'éducation des enfants. Vous comprenez qu'après des élections de ce genre, comment voulez-vous facilement demander à ces citoyens d'aller se faire enrôler, en sachant bien entendu que quelque part, on peut encore lui voler ces élections-là. C'est pourquoi nous insistons. Nous demandons à l'Assemblée du peuple congolais, ainsi qu'à tous les Congolais, de se sensibiliser mutuellement, ceux qui sont ici à l'intérieur du pays, ceux qui sont à l'extérieur du pays, de manière à ce que cette fois-ci, ce soit les Congolais qui puissent donner la garantie de la sécurité des élections. C'est-à-dire, étant donné que l'UDPS est le porte-parole, l'étendard du peuple congolais, prend l'engagement en demandant à ses combattants de pouvoir s'enrôler, c'est que ce peuple-là doit maintenant prendre ses responsabilités pour ne plus laisser passer n'importe quelle bêtise. C'est ainsi que nous avons demandé, donné un mot d'ordre à nos témoins ainsi qu'à nos comités de base, de dénoncer au fur et à mesure tous les aspects négatifs qu'ils pourront remarquer dans ce processus.
Mais est-ce qu'il y a, par exemple, au niveau de la CEI, avez-vous reçu des fonds pour la sensibilisation? Est-ce que vous travaillez en étroite collaboration avec la CEI?
Non. Nous travaillons avec la CEI, mais nous n'avons pas reçu des fonds de la CEI. Nous avons pris part à des rencontres auxquelles la CEI nous avons invité, et en tant que parti politique responsable, nous avons pris l'option de demander à nos combattants de pouvoir s'enrôler massivement. Mais en ce qui concerne l'argent, l'UDPS fonctionne par rapport à ses cotisations et aux dons et legs qu'il reçoit des personnes de bonne volonté.
Alors, professeur Isidore Ndaiwel, d'après Bernard Ali Rissassi, ce désintéressement s'explique en partie parce que la situation sociale n'a pas beaucoup évolué après les élections de 2006. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue?
Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on fasse de l'amalgame entre les élections et le niveau de vie. C'est deux choses différentes. Il faut qu'on sache très bien que quand on fait les élections ne constituent pas une panacée. C'est pas parce que on a élu la personne qu'on voulait élire, quand bien les élections seront les plus transparentes possibles, que cette personne est faiseuse de miracles. Il y a là une distinction. Je pense que notre population a vraisemblablement été mal informé sur le fait que les élections transparentes ne constituaient qu'un point de départ. Un point de départ à partir duquel il fallait maintenant que le processus de construction de la nation se fasse. Et il allait de même au niveau maintenant des communales. Moi, je crois que la morosité des élections est un phénomène un peu généralisé qui arrive dans plusieurs pays. On a eu les européennes récemment en Europe. On a vu qu'il y a eu une morosité générale à cause de la crise économique. On a évoqué cela. Mais je pense que dans notre cas, il y a aussi le fait que ce ne sont que des communales. Et donc, tout le grand déploiement qui pourrait être mis en place parce qu'il y a des députés, des sénateurs, etc., ne sont pas à l'ordre du jour. Donc, beaucoup se désintéressent parce que beaucoup n'ont pas nécessairement d'ambition à ce niveau. Donc, il y a aussi cet élément. J'aurais aimé également dire qu'il était important qu'il y ait une distinction entre les enrôlements et finalement l'identification de la population. Nous sommes obligés de faire encore les deux opérations en même temps. Je comprends, c'est dommage, mais nous insistons sur le fait d'abord qu'en amont, il y ait identification de la population, qu'il y ait mise en place des cartes d'identité et peut-être même des cartes de famille, des carnets de famille, pour qu'on puisse vraiment avoir la maîtrise de notre population. Et deuxièmement, au niveau électoral, qui est les opérations conjoncturelles liées au scrutin. Dans la mesure où les deux choses sont élevées, se confondent, qu'il y a des attestations de perte de pièces, j'en entends parler tout à l'heure, c'est encore dommage que nous en soyons toujours dans cette confusion. Il faut, j'espère qu'avant 2011, nous ayons résolu le problème des pertes d'identité dans ce pays pour que lorsqu'on s'approche des élections, il soit plus aisé de procéder aux enrôlements sans qu'il y ait chaque fois des confusions à ce niveau.
Dieudonné Mérimo, je reviens à vous, vous allez réagir aussi à ce qu'a dit le professeur Ndaïluel, mais s'il arrivait que l'on n'atteigne pas vos prévisions, allez-vous prolonger les jours? Qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas pessimiste, mais on suppose.
Non, nous continuons à croire que nous allons atteindre, sinon à nous approcher de nos prévisions. Et nous sommes seulement à 3 semaines depuis le début de l'opération, donc nous avons encore 5 semaines devant nous. Et les statistiques vont parler à ce moment-là. Nous allons prendre la décision sur base de ce qui sera constaté le moment venu.
Alors, comment jugez-vous la participation des partis politiques dans la sensibilisation de leurs membres?
Bon, nous avons constaté que non seulement au niveau de la sensibilisation, peut-être les partis politiques ne jouent pas leur rôle, mais même au niveau de déploiement des témoins des partis politiques, nous les avons conviés à pouvoir passer, retirer les badges d'accréditation, mais très peu de partis sont passés et donc ils ne sont pas trop visibles dans les centres d'inscription. Sur les 290 partis politiques officiellement agréés, seulement une vingtaine se sont présentés pour demander l'accréditation de leurs témoins.
Et à quoi attribuez-vous le désintéressement, le peu d'engouement que l'on remarque? Le professeur Isidore Ndaiwel dit que peut-être c'est parce qu'il ne s'agit que de simples élections communales.
Bon, d'habitude, nous savons que les Congolais attendent le dernier moment pour se rendre massivement vers les centres d'inscription. Et donc, nous espérons que lorsque nous allons approcher les cinquième ou sixième semaine des opérations, le nombre va s'accroître dans les centres d'inscription. Mais il y a aussi effectivement fait que les gens se disent, bon, ils ont déjà voté, et il y a la confusion entre l'opération de révision du fichier électoral et le vote lui-même. Il y a des électeurs qui pensent qu'on les invite à aller voter, pourtant ils ont voté il y a deux ans et demi. Et donc, c'est tout cela qu'il faut expliquer au niveau de la sensibilisation. Il y a quelques problèmes parce que ce sont les églises et les ONG de la société civile qui devraient faire la sensibilisation avec les partis politiques. Les ONG et les confessions religieuses n'ont pas encore reçu les moyens que les partenaires ont promis pour pouvoir appuyer la sensibilisation et permettre donc à la population d'être suffisamment et bien informée sur l'opération de révision du fichier électoral.
Donc si je comprends, la CEI n'a pas à disponibiliser un budget particulier à cet effet.
Le budget de la sensibilisation, ce n'est pas au niveau de la CEI, c'est un budget séparé et que les partenaires ont promis de pouvoir disponibiliser et verser directement auprès des confessions religieuses et des ONG de la société civile. La commission électorale participe seulement à l'élaboration des modules, des supports et des affiches et il fait le monitoring de la sensibilisation avec ses partenaires, que sont les confessions religieuses et les ONG de la société civile.
Alors, Bernard Ali Ristassi, l'UDPS dispose-t-elle d'un budget conséquent qui lui permette de se lancer dans la sensibilisation?
Budget de l'UDPS, oui, mais budget reçu de tierces personnes, non.
Alors, par rapport à votre budget à l'UDPS, qu'est-ce que vous faites pour la sensibilisation? Vous appelez tout simplement les membres, les militants à aller à participer à ces opérations, mais qu'est-ce que vous faites de plus? Le pays est assez grand. Concrètement,
nous avons, l'UDPS est l'un des partis les plus implantés à travers le pays. Je crois que le président Massiré, lorsqu'il était ici, dans notre pays, dans le cadre de la préparation du dialogue intercongolais, il a bien dit. Nous avons des représentations à travers le pays et même à l'extérieur. Chacun de nos cadres à travers le pays ont eu cette responsabilité de sensibiliser les nôtres là où ils se trouvent, de manière à ce que dès que la situation va permettre à la CEI de procéder à l'enrôlement des membres de l'UDPS, ils puissent être prêts à le faire dans le respect de la loi.
Et d'après Dieudonné Mirimo, vous, les partis politiques, vous ne jouez pas totalement votre rôle. Que vous faut-il de plus pour que vous y arriviez?
Je ne sais pas ce que je peux dire par là. Nous, en tant qu'UDPS, nous jouons notre rôle. Je n'aimerais pas parler ici au nom des autres partis politiques. Vous êtes censé savoir que plus de deux décennies, l'UDPS s'est engagé à sensibiliser le peuple congolais pour l'organisation des élections libres et démocratiques. Et nous le faisons chaque jour, de manière à ce que, petit à petit, le peuple congolais puisse se retrouver à travers un pouvoir qu'il acceptera et qu'il désignera lui-même.
Professeur Isidore Ndayuel, pensez-vous qu'ici au Congo, les nouveaux majeurs, c'est-à-dire tous ces jeunes qui ont atteint 18 ans, puissent constituer une donne qui peut ou qui pourrait influencer le paysage politique congolais, comme c'est, on le constate ailleurs?
À la condition que ce public soit suffisamment informé. J'ai le sentiment, effectivement, que l'information ne passe pas suffisamment et que l'opinion générale, en fait, minimise ce scrutin. Je pense que, en plus de tout ce qui a été dit, il est important d'expliquer l'importance des élections communales, parce que c'est vraiment le niveau numéro un de la démocratie. Jusqu'ici, ce qui a été fait, c'est la démocratie par le haut. Maintenant, c'est la démocratie au ras du sol. Et je pense que la sensibilisation sur le fait même de ce maillon le plus important, les fondements même de l'édifice démocratique, la sensibilisation sur ce point n'est probablement pas encore suffisant. Et puis aussi, j'ai entendu parler une fois de plus des problèmes des fonds extérieurs. Je crois qu'il faut ramener cette affaire dans ses plus justes proportions. Nous avons tous les dimanches tellement de cultes dans notre pays et dans nos villes, culte de ceci et de cela. Je pense que la sensibilisation peut passer à ces occasions. Les églises, les pasteurs, etc. peuvent expliquer directement à leurs fidèles de quoi il est question et que nous ne devons pas une fois de plus croiser les bras et attendre que ce soit les étrangers qui amènent des fonds importants, etc. Je pense qu'il faudrait de plus en plus que nous prenions en main nous-mêmes décider de notre démocratie. Sinon, ça sera toujours un produit importé. Et je crois qu'il faut maintenant que nous en arrivions à une démocratie inculturée, avec nos propres moyens, sous notre rythme. Ça me paraît très important.
Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Augustin Mwango de Kindu Maniema pense que l'exigence d'une somme de 1000 francs pour la révision du fichier électoral n'est pas à minimiser, car elle dénote non seulement la fragilité de la CEI, mais encore la fraude et le laisser-aller qui risque de caractériser les prochaines élections. Robert Baumé de Bukavu, Sud-Kivu, se demande à quoi serviront les 1000 francs qu'exige la CEI aux électeurs qui ont perdu leur carte. Est-ce une amende qu'elle leur inflige ou un acte réellement légal? Et il a, lui, se demande quant à lui, à quand le début de la sensibilisation du fichier électoral pour le reste du pays? Dieudonné Mirimo, qu'est-ce que vous répondez à ces auditeurs? Il y a encore des sérieux problèmes avec ces 1000 francs qu'il faut payer.
Je voudrais fixer encore une fois pour toute l'opinion, c'est que le frais pour l'obtention de l'attestation de perte de pièces n'a pas été fixé par la CEI. C'est l'hôtel de ville, comme je vous ai dit, qui a fixé le prix à 1000 francs congolais pour l'obtention de cette pièce. Vous pouvez fixer à 100 francs et ça serait 100 francs. Donc, cet argent n'est pas versé à la CEI, ce n'est pas la CEI qui l'exige. La CEI exige seulement l'attestation de perte de pièces. Et l'autorité a fixé le prix à 1000 francs. Donc, ce n'est pas que ça fragilise la CEI ou c'est une fraude organisée par la CEI, non. Je vous ai dit que c'est le bourgmestre de chaque commune qui a reçu mandat de pouvoir délivrer cette attestation à chaque requérant. En ce qui concerne l'autre question sur la sensibilisation, c'est depuis le 7 mai dernier que nous avons lancé la campagne de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national, à commencer par Kinshasa et Bas-Congo qui constituait notre première aire opérationnelle. Et la campagne va se poursuivre jusqu'à la fin des opérations, et donc pour Kinshasa, elle va aller jusqu'au 5 août 2009, et pour le reste des provinces, elle va démarrer par rapport au calendrier que nous avons rendu public.
Bernard Alirissasi, quelle lecture vous faites de ces réactions de quelques auditeurs?
Bon, je dirais ceci. En fait, tout l'ensemble de ces problèmes, ce sont des problèmes que nous avons eu à dénoncer. Le 5 novembre 2005, le président national avait adressé un mémorandum au secrétaire général de l'ONU dans lequel il exposait un certain nombre de faits. Ici, on parle d'attestation de perte de pièces. Mais, monsieur le journaliste, combien de Congolais a-t-il dans ce pays? Combien de Congolais ont-ils aujourd'hui une carte d'identité? Et le professeur Bailo, elle vient de le dire. Nous devons, franchement et sincèrement, une fois pour toutes, cesser de naviguer à vue. Aujourd'hui, c'est vrai, nous nous enrôlons. Mais dites-moi sincèrement, qui est Congolais, qui ne l'est pas? L'enrôlement n'est qu'une étape qui va nous amener aux élections. S'enrôler ne veut pas dire aller aux élections. Voilà pourquoi ce genre de problème se pose aujourd'hui. Attestation de perte de pièces, pour en faire quoi? Et lorsque les compatriotes parlent ici des 1000 francs, je vous assure, lorsque vous allez à l'arrière-pays, 1000 francs, ça représente beaucoup. C'est pourquoi nous, le lit de pièces, nous disons ceci. Nous devons, une fois pour toutes, mettre fin à cet amalgame. Il faut qu'il y ait un recensement de la population. Il faut qu'il y ait l'identification des nationaux pour que, une fois pour toutes, on puisse aller vers des élections harmonieuses, transparentes et démocratiques. Les Mbororo sont aujourd'hui dans ce pays. Sous quel mandat ils sont là? Notre armée est incapable de ramener ces gens. À l'Est, nous sommes envahis par un grand nombre d'étrangers. On ne sait pas qui est qui fait quoi. Dans le Bas-Congo, il y a eu intuition de l'armée angolaise. Dieu seul sait si tout le monde est rentré chez eux. C'est ça un problème.
Professeur Isidore Ndaiwel, j'ajoute cette réaction de Salem ou Salem de Bujumbura au Burundi. Il estime que l'argent qu'exige la CEI, bon ce n'est pas la CEI qui l'exige, hein, Dieu donné Mérim, on l'a dit, va décourager beaucoup de personnes, alors qu'en 2005, on donnait la carte gratuitement. Pour lui, cette façon de faire les choses va diminuer le nombre des enrôlés.
Mais je comprends qu'on puisse tout de même demander quelque chose, parce qu'il faut, ça participe de l'éducation. Il faut que les gens sachent que la carte reçue est une chose importante et qu'il faille faire l'effort de conserver cela. Lorsqu'on sait que ça se donne, on peut perdre et on fait n'importe quoi, on laisse tomber, c'est pas grave, on aura toujours une nouvelle carte. Je crois effectivement qu'il y ait banalisation de cette affaire. Donc je peux comprendre, mais cependant, je suis d'accord que la hauteur du montant est inutilement élevée. On aurait pu demander quelque chose de plus symbolique, 100, 200, pour que les gens sachent qu'il y a tout de même une légère sanction liée à cette opération.
J'aimerais juste apporter une précision. Dieudonné Mérim l'a bien dit, ce n'est pas la CEI qui demande les 1000 francs, mais c'est plutôt dans les communes où les électeurs doivent aller chercher les pertes, des attestations de perte de pièces pour ceux qui ont perdu leur carte. Nous allons passer à la deuxième partie de cette émission sans transition. Quels sont les défis à relever pour le succès de ces opérations? Le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes pense que pour la réussite de ces opérations, la CEI doit veiller au respect des instructions données aux agents électoraux. Jérôme Bonceau pense aussi que la sensibilisation doit être renforcée, mais aussi augmenter le nombre des bureaux pour ces opérations. On écoute Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT, au téléphone de Kevin Côté.
Nous avons demandé à ce que la commission électorale indépendante puisse mettre l'accent sur ces agents, les gens qui sont dans des centres d'inscription, qui puissent bien respecter les instructions que la CEI a données et que ces gens-là puissent avoir la maîtrise et des instructions et des machines et la gestion aussi des enrôleurs qui viennent dans le bureau. Parce que nous avons vu que selon la procédure de la CEI, que les centres d'inscription devaient ouvrir entre 7 et 30 et 17 heures. Mais curieusement, dans certains centres, les rapports qui sont à notre possession, certains agents débarquent dans des centres vers 10h, soit à 13h, c'est le début de sensibilisation. Donc nous pensons qu'il y a une petite lenteur. L'autre difficulté, ce sont les centres de marché. Et donc, ils ont quitté leur marché pour aller se faire enrôler. C'est pour nous demander aussi à la CEI si on peut voir à la hausse le nombre de centres d'inscription en mettant certains bureaux dans le marché pour permettre à ce moment-là de se faire enrôler dans le marché avant la date limite du mois d'août.
Dieudonné Mérim, vous êtes rapporteur général de la commission électorale indépendante CEI. Vous venez de suivre Jérôme Bonceau, président de la ligne élite. Il propose d'ajouter le nombre des bureaux, d'augmenter le degré de sensibilisation et le respect des consignes par les agents électoraux. Cela suffit-il pour que ces opérations puissent être un succès?
Je crois que il a évoqué certains aspects sur lesquels nous devons insister pour que la situation puisse s'améliorer, donc pour élever les défis que nous sommes en train d'observer. Et donc, pour ce qui est de respect des instructions, les agents sont formés et il y a des superviseurs qui passent régulièrement dans les centres d'inscription pour suivre non seulement l'application des instructions, mais le déroulement des opérations. Et donc là, on le fait systématiquement. Mais pour ce qui est de la sensibilisation, je l'ai déjà dit. Ce sont des moyens que nous devons mobiliser pour réussir la campagne de sensibilisation. J'ai suivi le professeur Isidore parler des églises qui doivent faire la sensibilisation. Effectivement, c'est pour cela que nous sommes appuyés sur les confessions religieuses pour qu'ils puissent nous aider à relayer le message de la sensibilisation à travers leurs églises. Et j'imagine qu'ils le font parce que nous avons signé un partenariat avec eux, mais cela ne suffit pas. Tous les acteurs doivent s'impliquer. Autant les églises s'impliquent, les ONG de la société civile, mais également les partis politiques, devront s'impliquer pour que la sensibilisation soit optimale. Pour ce qui est des bureaux de vote qu'il faut augmenter, nous avons prévu 2260 bureaux de vote à travers tout le pays et l'opération va se dérouler sur 2 mois au lieu de 21 jours comme en 2005. Mais si nous avons des moyens aujourd'hui, Nous pouvons augmenter les bureaux, même jusqu'à 5, 6, même 10 000 bureaux. Et donc, c'est question de moyens. C'est pour cela que nous avons travaillé sur base de ce qui est disponible.
Mais parmi les défis, qu'est-ce que vous avez prévu pour mobiliser les ressources internes, comme l'a proposé le professeur Ndaïuel, au lieu de toujours attendre quelque chose de l'extérieur?
Nous sommes approchés du législateur, qui est l'autorité budgétaire, et du gouvernement, pour obtenir les moyens nécessaires. Et comme vous savez, le pays et d'ailleurs le monde entier traversent la crise financière, mais c'est de ce côté-là que nous attendons les financements. Nous ne pouvons pas obtenir le financement de la population. En tout cas, nous sommes une institution de la République. Et donc, c'est le financement, le budget que nous utilisons est inscrit dans le budget général du pays. Et c'est pour cela que les moyens dont nous disposons nous permettent de planifier les opérations que nous organisons.
Bernard Alirissasi, quels sont les défis à relever pour vous, en plus de ce qu'a dit Dieudonné Mérimo?
Non, en fait, j'aimerais relever ici un aspect des choses. Je crois que, d'après la Constitution, la CI normalement ne peut plus exister. D'après la Constitution qui est en vigueur dans notre pays. Quand cela ne tienne, vous avez levé l'option pour demander à nos combattants de pouvoir s'enrôler. Pour une bonne sensibilisation, il faut pouvoir d'abord respecter les textes, mais aussi alors impliquer tout le monde. Quand je dis tout le monde, vous avez entendu tout le monde ici parle des partis politiques, des confessions religieuses, mais j'aimerais savoir combien de partis politiques sont impliqués dans ce travail qui est en train d'être fait, qui est l'enrôlement de... On demande aux partis...
La révision du fichier électoral.
La révision du fichier électoral. On demande aux partis politiques de pouvoir sensibiliser. Mais ces partis politiques doivent faire partie aussi de cette commission. Vous êtes censé savoir que la loi portant organisation du fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante est en discussion au niveau de l'Assemblée nationale. C'est cette commission, je l'espère, qui va pouvoir organiser les élections dans notre pays. Parce que la CEI, logiquement parlant, ne peut plus exister. La politique étant dynamique, nous sommes quand même impliqués. Donc cet aspect des choses, c'est-à-dire du respect des textes, du respect de la loi, c'est ce que l'UDPS a toujours stigmatisé. Et à cet effet, la direction politique de l'UDPS avait eu à adresser un document qui a été signé par son secrétaire général qui date du 1er juin, dans lequel nous relevons cet aspect des choses-là. Et ça, c'est très important. Parce que d'ici quelques mois ou quelques années, sera toujours la CEI qui va continuer pour assumer cette fonction, ou ce sera la CENI. Donc moi, je dis que la sensibilisation va de pair avec le respect des textes. Le manque d'engouement ici dans notre pays, ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, non. Je me rappelle que lors des premières élections, tout le monde tenait à ce que l'UDPS puisse participer. Beaucoup de gens même nous ont condamnés. Mais aujourd'hui, le temps nous donne raison. C'est pourquoi nous lui disons ceci. La vraie sensibilisation, c'est impliquer tout le monde dans le schéma et ne pas impliquer une partie des gens et dire que les autres, non, celle-là, c'est une opposition.
Donc concrètement, que l'UDP se retrouve à la commission, à la CEI par exemple.
Non, pas à la CEI.
À la CENI.
Alors, Dieudonné Mérimo va donner un peu plus de précision tout à l'heure. Professeur Isidore Ndaïuel, d'après vous, quels sont les défis à relever pour que ces opérations de révision du fichier électoral soient un succès?
Mais je pense qu'on vient de faire le point. Il y a plusieurs éléments qui ont été énoncés et qui sont très pertinents. Pour ma part, je pense qu'il n'y a rien de neuf à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit. Mais j'aimerais simplement faire une observation, c'est que très souvent, cette espèce de guérilla politique et qui apparaît souvent lorsqu'on est devant des enjeux, est aussi un élément qui déroute souvent les électeurs, mais aussi le bas peuple. Je pense que la remarque qui a été faite pour l'UDPS est pertinente, mais il va falloir trouver une solution sui generis, puisque nous sommes en présence d'un scrutin qui, d'un côté, arrive trop tard et en même temps arrive trop tôt. puisque en fait ça relève de l'échéance de 2006 et ce n'est pas encore l'échéance de 2011. Donc nous sommes là dans un cas particulier, un cas sui generis. Moi je plaide à ce qu'on trouve une solution appropriée pour ce cas-ci, étant entendu que nous sommes dans une drôle de transition, la nouvelle structure organisationnelle des élections n'est pas encore en place, et l'ancienne est là, et qu'elle n'est pas acceptée par tout le monde, mais nous sommes dans une situation intermédiaire, donc il faut trouver des solutions.
Dieudonné Mérimo, vous avez suivi Bernard Aliris, il revient au respect des textes, et ainsi que l'implication de tous, il parle, par respect des textes, il parle de la CENI, ne sommes-nous pas là en train de traîner un boulet qui risque de nous coûter cher dans l'avenir?
Je crois que comme nous parlons de respect des textes, effectivement, nous tous, nous devons respecter les textes. La Constitution parle d'une commission électorale nationale indépendante qui va remplacer la commission électorale indépendante. Et la loi se trouve au Parlement, comme l'ont dit les orateurs tout à l'heure. Mais pour éviter ces vides-là, la Cour suprême de justice avait pris son arrêt le 27 août 2007. Et pour avec cet arrêt, la Cour suprême demande à la CENI de poursuivre son mandat jusqu'à l'installation effective de la commission électorale nationale indépendante. Donc c'est sur base de ça que la commission électorale indépendante poursuit son travail. Et une fois que la loi sur la CENI va être promulguée et les membres désignés, la commission électorale indépendante va cesser de fonctionner.
Alors, Dieudonné Mérimo, il y a un autre aspect, hein, ça concerne l'engouement ou l'engagement des femmes à ces opérations. Il n'y a que 30% hein, des femmes qui se sont enrôlées. Qu'est-ce que vous prévoyez pour mobiliser le plus de femmes qui sont quand même la majorité de la population?
Nous sommes très inquiets lorsque nous constatons effectivement que le taux d'implication des femmes dans les opérations est vraiment inférieur. Mais nous espérons que toutes les structures féminines que nous observons à travers toute la ville et tous les pays vont pouvoir se ressaisir et mobiliser ainsi les femmes à se rendre massivement vers les centres d'inscription parce qu'ils se sont plaints qu'elles sont sous-représentées dans les institutions. C'est l'occasion maintenant de passer vers les centres d'inscription et se faire enrôler massivement et plus tard présenter les candidats qui vont pouvoir relever les défis et donc représenter significativement les femmes dans les futures institutions.
Nous allons prendre la dernière vague des réactions des auditeurs. Il nous reste 2 minutes. Je vais vous demander d'être très concis dans vos réponses. Alphonse Tribunal de Kisangani, en province orientale, aimerait savoir, lors de l'identification et enrôlement des électeurs pour les élections passées, on a dépassé 25 millions d'électeurs, mais pourquoi l'opération de révision du fichier électoral ne vise que 6 millions d'électeurs sur l'ensemble du pays? Cette opération est-elle uniquement pour ceux qui ne possèdent pas l'actuelle carte d'électeur ou encore concerne tout Congolais en âge de voter? Dadou Mpoutou de Paris en France aimerait savoir ce que dit la Constitution à propos du droit de vote des Congolais de l'étranger, car la RDC est le seul pays au monde où la diaspora ne participe pas aux élections. Jules Ndala à Beni, au Nord Kivu, encourage ces opérations de révision du fichier électoral. Il se demande si parmi les milliers de candidats électeurs attendus, les militaires et policiers sont aussi concernés. Dieudonné Mérimo, je vous demande en 20 secondes de répondre très brièvement et de donner votre conclusion. En 20 secondes, très rapidement.
Les policiers, les militaires ne sont pas concernés. Ceux qui sont démobilisés peuvent se faire enrôler. Pour ceux qui sont des Congolais de l'étranger, la loi portant identification et enrôlement des électeurs stipule que pour être enrôlé, il faut se trouver sur le territoire congolais. À ce qui concerne le nombre d'électeurs attendus, les 6 millions, je ne sais pas où il les a trouvés. Nous avons ouvert les centres d'inscription. Effectivement, nous avons enrôlé 25 712 000 en 2005. Mais nous avons ouvert et nous avons des prévisions que nous voulons atteindre. Nous espérons que la sensibilisation et la population va se mobiliser pour que nous puissions atteindre ce chiffre-là et donc pouvoir actualiser les données de nos listes.
Merci, merci. Le professeur Isidore Ndaiwel, en 15 secondes, votre conclusion.
Ma conclusion ne porterait que sur le fait de la diaspora. Je pense que pour ce scrutin, effectivement, il n'est pas indispensable. que la diaspora puisse intervenir. Mais par contre, pour ce qui a précédé sur les élections législatives, etc., c'était possible. Mais que le territoire des ambassades
merci.
Dans les pays, dans les différents pays, constitue.
Merci, professeur Ndaïwel. Bernard Alirissassi, en 10 secondes, on termine par vous.
Je demande à l'ensemble des combattants de l'UDPS et à l'ensemble du peuple congolais de s'accaparer cette fois-ci de tous ces enjeux électoraux de manière à ce que dans les jours à venir nous puissions permettre à l'UDPS de triompher.
Merci à tous et bonne suite de programme sur Radio Capi.